Le disciple par Paul Bourget. Première partie. Chapitre 1er. Un philosophe moderne. Une légende qui n'a pas été démentie veut que les bourgeois de la ville de Königsberg aient deviné qu'un événement prodigieux bouleversait l'univers civilisé, à voir simplement le philosophe Emmanuel Kant modifier la direction de sa promenade quotidienne. Le célèbre auteur de la Critique de la raison pure avait appris le jour même l'annonce que la Révolution française venait d'éclater. Quoique Paris soit peu propice à de si naïfs étonnements, c'est une stupeur presque pareille qu'éprouvèrent plusieurs habitants de la rue Guy-de-la-Brosse par une après-midi de janvier 1887, à constater la sortie vers 1 heure d'un philosophe moins illustre que le vieux Kant, mais aussi régulier, aussi maniaque, avouons-le, dans ses faits et gestes, sans compter qu'il est plus destructif encore dans son analyse, M. Adrien Sixte, celui que les Anglais appellent volontiers le Spencer français. Il convient d'ajouter tout de suite que cette rue de Guy-de-la-Brosse, qui va de la rue de Jussieu à la rue Linné, fait partie d'une véritable petite province bornée par le Jardin des Plantes, l'Hôpital de la Pitié, l'Entrepôt des Vins et les premières rampes de la montagne Sainte-Geneviève. C'est dire qu'elle permet ses familières inquisitions du coup d'œil, impossible dans la plupart des quartiers de la ville où le va-et-vient de l'existence renouvelle sans cesse le flot des voitures et des passants. Ici ne demeurent que des petits rentiers, des professeurs modestes, des employés au muséum, des étudiants désireux d'étudier, de tout jeunes gens de lettres qui redoutent autour de leur solitude les tentations du pays latin. Les boutiques sont achalandées par cette clientèle, fixe comme celle d'un faubourg. Le boulanger, le boucher, l'épicier, la blanchisseuse, le pharmacien, tous ces noms sont prononcés au singulier par les domestiques qui vont aux emplettes. Il n'y a pas place pour une concurrence dans ce carré de maison que dessert la ligne des autobus de la glacière et qu'orne une fontaine capricieusement chargée d'images d'animaux en l'honneur du jardin des plantes. Les visiteurs de ce jardin s'y rendent rarement par la porte qui fait face à l'hôpital. Aussi, même dans les belles journées de printemps, et quand la foule abonde sous les arbres reverdis de ce parc, asile favori des militaires et des nourrices, la rue Linné demeure calme comme d'habitude et à plus forte raison les rues avoisinantes. S'il se produit dans ce coin isolé de Paris une affluence inusitée, c'est que les portes de l'hospice de la Pitié s'ouvrent aux visiteurs des malades, et c'est alors sur les trottoirs des défilés de figures humbles et tristes. Ces pèlerins de misère arrivent munis des friandises destinées aux parents qui souffrent derrière les vieux murs grisâtres de l'hôpital, et les habitants des rez-de-chaussée, des loges et des magasins ne s'y méprennent pas. Ils prennent à peine garde à ces promeneurs de hasard et ils réservent toute leur attention pour les passants qui apparaissent tous les jours sur les trottoirs de ce quartier, dans lequel résonnent parfois les appels sauvages poussés par quelques bêtes de la ménagerie voisine. Un ara qui crie, un éléphant qui barille, un aigle qui trompette, un tigre qui miaule. En voyant trottiner sa vieille serviette en cuir verdi sous le bras, le professeur libre qui grignote un croissant d'un sou acheté en hâte, les boutiquiers savent que 8 heures vont sonner. Quand le garçon du pâtissier-restaurateur sort avec ses plats couverts, ils savent qu'il est 11 heures, et que le chef de bataillon retraité qui loge tout seul au 5e étage de telle maison va déjeuner, ainsi de suite pour tous les instants du jour. Les changements de toilette des femmes qui promènent leurs élégances plus ou moins coquettes dans ce coin du monde sont notés, critiqués, interprétés par 20 bouches bavardes et peu indulgentes. Enfin, pour employer une formule très pittoresque du centre de la France, là, les moindres allées et venues des habitués de ces 4 ou 5 rues sont dans les langues, et les allées et venues de M. Adrien Sixte, plus encore que celles de beaucoup d'autres, on va comprendre pourquoi, par une simple esquisse du personnage. On trouvera d'ailleurs dans les détails de la vie menée par cet homme un document authentique sur une espèce sociale assez rare, celle des philosophes de profession. Quelques échantillons curieux nous ont été donnés de cette espèce par les anciens et plus récemment par Colerus à propos de Spinoza, par Darwin et Stuart Mill à propos d'eux-mêmes. Mais Spinoza était un Hollandais du XVIIe siècle. Darwin et Mill ont grandi dans l'opulente et active bourgeoisie anglaise, au lieu que M. Sixte vivait de sa vie philosophique en plein Paris de la fin du XIXe siècle. J'ai connu dans ma jeunesse, et quand les études de cet ordre m'intéressaient, plusieurs individus aussi emprisonnés que lui dans l'atmosphère des spéculations abstraites. Je n'en ai pas rencontré qui m'ait fait mieux comprendre ce qu'avait pu être l'existence de Descartes dans son poêle au fond des Pays-Bas ou celle du penseur de l'éthique, lequel n'avait, comme on sait, d'autres distractions à ses rêveries que de fumer parfois une pipe de tabac ou de faire battre des araignées. Il y avait juste 14 ans que M. Sixte, au lendemain de la guerre, était venu s'établir dans une des maisons de la rue Guy-de-la-Brosse dont tous les indigènes le connaissaient aujourd'hui. C'était alors un homme de 34 ans, chez lequel toute physionomie de jeunesse était comme détruite par une si visible absorption de l'esprit dans les idées, qu'à vrai dire ce visage rasé n'avait plus ni âge ni profession. Des médecins, des prêtres, des policiers et des acteurs ont, pour des raisons très diverses de métier, de ces faces glabres, à la fois tendues et inexpressives. Un front haut et fuyant, une bouche avancée et volontaire avec des lèvres minces, un teint bilieux, des yeux malades d'avoir trop lu sous des lunettes noires, un corps grêle avec de gros os, uniformément vêtu d'une longue redingote en drap peluche l'hiver, en drap mince l'été, des souliers noués de cordons, des cheveux trop longs prématurément presque tout blancs et très fins sous un de ces chapeaux d'igibus qui se plient par une mécanique et se déforment tout de suite, voilà sous quelles apparences se présentait ce savant, dont toutes les actions avaient été dès le premier mois aussi méticuleusement réglées que celles d'un ecclésiastique. Il occupait un appartement de 700 francs de loyer, situé au quatrième, et composé d'une grande chambre à coucher, d'un salon de travail, d'une salle à manger grande comme une cabine de bateau, d'une cuisine, d'une chambre de bonne, le tout donnant sur le plus large horizon. Le philosophe pouvait voir de ses fenêtres toute l'étendue du jardin des plantes, la colline du Père Lachaise très au loin, dans le fond à gauche, la gare d'Orléans et le dôme de la Salpêtrière en face, et à droite la masse noire du cèdre avec le fouillis des arbres du labyrinthe. Sans doute, en choisissant sa thébaïde en vue de ce vaste paysage, il avait cédé à une loi générale, quoique inexpliquée, de la nature méditative. Presque tous les cloîtres ne sont-ils pas bâtis dans des endroits qui permettent d'embrasser du regard une grande quantité d'espace? Peut-être ces vues démesurées et confuses sont-elles favorables aux concentrations de la pensée qui se laisseraient distraire par un détail trop voisin, trop circonstancié? Peut-être les solitaires trouvent-ils une volupté de contraste entre leur inaction songeuse et l'ampleur du champ où se développe l'activité des autres hommes. Quoi qu'il en soit de ce petit problème qui se rattache à cet autre, trop peu étudié, la sensibilité animale des hommes d'intelligence, il est certain que ce paysage était, depuis 15 ans, le compagnon avec qui le silencieux travailleur causait le plus. Son ménage était tenu par une de ses domestiques comme en rêvent tous les vieux garçons, sans se douter que la perfection de certains services suppose chez le maître une régularité correspondante d'existence. Le philosophe avait, dès son arrivée, demandé simplement au concierge de lui indiquer une femme de charge pour ranger son appartement et un restaurant d'où il fit venir ses repas. Cette demande, qui risquait d'aboutir au pire contretemps d'un service fait à la diable et d'une nourriture de hasard, eut le résultat inattendu d'introduire dans l'intérieur d'Adrien Sixte précisément la personne que ses vœux les plus chimériques eussent rêvé, si toutefois un abstracteur de quintessence, comme Rabelais appelle cette sorte de songeur, a le loisir de former des vœux. Ce concierge, d'après les us et coutumes de tous les concierges dans les maisons à petits appartements, augmentait le revenu trop faible de sa loge au moyen d'un métier. Il était cordonnier en neuf et en vieux, disait une pancarte collée à la vitre de la fenêtre sur la rue. Parmi ses clients, le père Carbonnet, c'était son nom, comptait un prêtre domicilié rue Cuvier, et ce prêtre, âgé, retiré du monde, avait pour domestique Mademoiselle Mariette Trappenard, une femme de 40 ans environ, habituée depuis des années à tout gouverner chez son maître, avec cela restée très paysanne, sans aucune ambition de jouer à la demi-dame, rude à l'ouvrage, mais qui n'aurait voulu à aucun prix entrer dans une maison où elle se fût heurtée à une autorité féminine. Le vieux prêtre venait de mourir presque subitement dans la semaine qui précéda l'installation du philosophe rue Guy-de-la-Brosse. Le père Carbonnet, sur la feuille de location duquel le nouveau venu était simplement inscrit comme rentier, devina sans peine quelle espèce d'homme c'était que ce monsieur Sixte, d'abord à la quantité de volumes qui composait la bibliothèque du savant, et puis à un racontard d'une bonne de la maison, celle d'un professeur au Collège de France domicilié au premier. Ainsi l'attestaient les affiches blanches posées contre le mur et qui donnaient dans le programme des cours de ce célèbre établissement. Dans ces phalanstères du Paris bourgeois, tout devient événement. La bonne avait nommé à sa maîtresse le futur voisin du quatrième. La maîtresse l'avait nommé à son mari. Ce dernier en avait parlé à table dans des termes que la même bonne avait assez compris pour démêler que le locataire était dans les livres comme monsieur. Carbonet n'eût pas été digne de tirer le cordon dans une loge parisienne si sa femme et lui n'eussent éprouvé immédiatement le besoin de mettre en rapport M. Adrien Sixte et Mlle Trappenard. D'autant plus que Mme Carbonet, vieille et impotente, se trouvait elle-même déjà trop occupée par trois ménages dans la maison pour prendre encore celui-là. Le goût de l'intrigue qui fleurit dans les loges, comme les fuchsias, les géraniums et les basiliques, induisit donc ce couple à certifier aux savants que les traiteurs du quartier cuisinaient de la gargote, qu'il n'y avait pas une seule femme de charge dont ils pussent répondre dans le voisinage, que la servante de feu, M. l'abbé Vessier, était une perle de discrétion, d'ordre, d'économie et de talent culinaire. Bref, le philosophe consentit à voir cette gouvernante modèle. Il fut séduit par la visible honnêteté de la fille et aussi par cette réflexion que cet arrangement simplifiait de beaucoup son existence en le dispensant d'une odieuse corvée, celle de donner lui-même un certain nombre d'ordres positifs. Mlle Trappenard était donc entrée au service de ce maître, pour n'en plus bouger, au gage de 45 francs par mois, gage porté aujourd'hui à 60. Le savant lui donnait en outre 50 francs d'étrenne. Il ne vérifiait jamais son livre qu'il réglait chaque dimanche sans une contestation. C'était elle qui avait affaire à tous les fournisseurs sans jamais qu'une remarque de M. Sixte vînt la troubler dans ses combinaisons, d'ailleurs honnête. Enfin, elle était la maîtresse absolue au logis, situation qui excitait, comme on pense, l'universelle envie du petit monde sans cesse en train d'aller devenir par l'escalier commun qu'un frotteur était chargé de nettoyer tous les lundis. « Hein, mademoiselle Mariette, l'avez-vous mis la main sur le bon numéro, l'avez-vous mis ?» lui disait Carbonet quand la bonne du philosophe s'arrêtait une minute à causer avec son introducteur, devenu plus vieux. Il était obligé maintenant de porter des lunettes sur son nez carré afin de bien ajuster ses coups de marteau sur les clous qu'il enfonçait dans des talons de bottine, la forme serrée entre ses jambes, le tablier de cuir noué autour du corps. Depuis quelques années, il élevait chez lui un coq appelé Ferdinand, sans qu'on eût jamais su la raison de ce nom. Cette bête errait parmi les cuirs, excitant l'admiration de tous les visiteurs par son avidité à happer des boutons de bottine. Dans les moments de terreur, ce coq familier se réfugiait chez son maître, enfonçant une de ses pattes dans la poche du gilet et cachant sa tête sous le bras du vieux concierge. « Allons, Ferdinand, dis bonjour à Mademoiselle Mariette, » reprenait Carbonet, et le coq becquetait doucement la main de la fille et son maître continuait. « Je dis toujours, ne vous désespérez pas d'une mauvaise année, il en viendra deux tout de suite, et aussi des bonnes. Elles se suivent comme Ferdinand suit les poules, n'est-ce pas, gourgandin ?»
Ça, répondait Mariette, faut en convenir, pour un brave homme, monsieur est un brave homme. Quoique pour la religion, c'est un vrai païen, qui n'est pas allé une fois à la messe depuis ses 15 ans.
Il y en a tant qu'ils y vont, répliquait Carbonet, que c'est des gaillards qui vous mènent des vies de remplaçant entre 4 et minuit.
Voulant dire catimini.
Ce fragment de conversation peut être donné comme le type de l'opinion que Mademoiselle Mariette avait sur son maître. Mais cette opinion demeurait inintelligible si l'on ne rappelait ici les travaux du philosophe et l'histoire de sa pensée. Né en 1839 à Nancy, où son père tenait une petite boutique d'horlogerie, et remarqué de bonne heure pour la précocité de son intelligence, Adrien Sixte a laissé parmi ses camarades le souvenir d'un enfant chétif et taciturne, doué d'une force de résistance morale qui a toujours éloigné la familiarité. Il fit des études d'abord très brillantes, puis moyennes, jusqu'à ce que dans la classe de philosophie, qui portait alors le nom de logique, il se distingua par des aptitudes exceptionnelles. Son professeur, frappé de son talent de métaphysicien, voulut le décider à préparer l'examen de l'école normale. Adrien s'y refusa et déclara d'ailleurs à son père que métier pour métier, il préférait à tous un travail manuel. « Je serai horloger comme toi », fut sa seule réponse aux objurgations de ce père, qui avait caressé, comme les innombrables artisans ou commerçants français dont les enfants fréquentent les collèges, le rêve pour son fils d'un avenir de fonctionnaire. Monsieur et Madame Sixte, car Adrien avait encore sa mère,
ne pouvait d'ailleurs reprocher quoi que ce fût à ce garçon qui ne fumait pas, n'allait jamais au café, ne se montrait jamais avec une fille, enfin qui faisait leur orgueil et aux volontés duquel ils se résignèrent, le cœur navré. Il renonça en effet à ce qu'il prît aucune carrière, mais ils ne consentirent pas non plus à le mettre en apprentissage, et le jeune homme vécut chez eux sans autre occupation que d'étudier à sa guise. Il employa ainsi 10 années à se perfectionner dans l'étude des philosophies anglaises et allemandes, dans les sciences naturelles et particulièrement dans la physiologie du cerveau, dans les sciences mathématiques. Enfin, il se donna, comme l'a dit de lui-même un des grands penseurs de notre époque, cette violente encéphalite, cette espèce d'apoplexie de connaissances positives, qui fut le procédé d'éducation de Carlyle et de Mill, de M. Taine et de M. Renan, de presque tous les maîtres de la philosophie moderne. En 1868, le fils du petit horloger de Nancy, alors âgé de 29 ans, publia un gros volume de 400 pages intitulé « Psychologie de Dieu », qu'il n'envoya pas à plus de 15 personnes, mais qui eut la fortune inattendue d'un scandaleux retentissement. Ce livre, écrit dans la solitude de la pensée la plus intègre, présentait ce double caractère d'une analyse critique, aiguë jusqu'à la cruauté, et d'une ardeur dans la négation, exaltée jusqu'au fanatisme. Moins poète que M. Taine, incapable d'écrire la magnifique préface de l'intelligence et le morceau sur l'universel phénoménisme, moins desséché que M. Ribot, qui préludait par ses psychologues anglais à la belle série de ses études, la psychologie de Dieu tenait à la fois de l'éloquence de l'un et de la pénétration de l'autre, et elle avait la chance, non cherchée, de s'attaquer directement au problème le plus passionnant de la métaphysique. Une brochure d'un évêque très en vue, une allusion indignée d'un cardinal dans un discours au Sénat, un article foudroyant du plus brillant des critiques spiritualistes dans une célèbre revue, suffirent pour désigner l'ouvrage aux curiosités de la jeunesse d'alors, sur laquelle passait un vent de révolution, symptôme avant-coureur des bouleversements futurs. La thèse de l'auteur consistait à démontrer la production nécessaire de l'hypothèse Dieu par le fonctionnement de quelques lois psychologiques, rattachées elles-mêmes à quelques modifications cérébrales d'un ordre tout physique, et cette thèse était établie et développée avec une âpreté d'athéisme qui rappelait les fureurs de Lucrèce contre les croyances de son temps. Il arriva donc au solitaire de Nancy que son œuvre, conçue et composée comme dans une cellule, fut du premier coup mêlée d'une manière tapageuse à la bataille des idées contemporaines. On n'avait pas rencontré, depuis des années, une pareille puissance d'idées générales mariée à une telle ampleur d'érudition, ni une si riche abondance de points de vue alliée à un si audacieux nihilisme. Mais tandis que le nom de l'écrivain devenait célèbre à Paris, ses proches, ceux qui l'avaient élevé, demeuraient atterrés de son succès. Quelques articles de journaux catholiques désespéraient Madame Sixte. Le vieil horloger tremblait de perdre sa clientèle dans l'aristocratie nancéenne. Toutes les misères de la province crucifièrent alors le philosophe qui allait prendre le parti de quitter sa famille quand l'invasion allemande et l'épouvantable naufrage national vinrent détourner de lui l'attention de ses compatriotes et de ses parents. Ces derniers moururent au printemps de 1871. Dans l'été de cette même année, Adrien Sixte perdit encore une tante, et c'est ainsi qu'à l'automne de 1872, ayant réglé toute sa fortune, il était venu s'établir à Paris. Ses ressources consistaient, grâce à l'héritage de ses parents et à celui de sa tante, dans 8 000 francs de rente placés en viager. Il était résolu à ne pas se marier, à ne jamais aller dans le monde, à n'ambitionner ni honneur, ni place, ni réputation. Toute la formule de sa vie tenait dans ce mot « penser ». Pour mieux définir cet homme d'une espèce si rare que cette esquisse d'après nature risquera de paraître invraisemblable au lecteur peu familiarisé avec la biographie des grands manipulateurs d'idées, il est nécessaire de donner un aperçu des journées de ce puissant travailleur. Été comme hiver, M. Sixte s'asseyait à sa table dès 6 heures du matin, lesté seulement d'une tasse de café noir. À 10 heures, il déjeunait, opération sommaire et qui lui permettait de franchir à 10h30 la porte du jardin des plantes. Il se promenait là jusqu'à midi, poussant quelquefois sa flânerie vers les quais et du côté de Notre-Dame. Un de ses plaisirs favoris consistait dans de longues séances devant les cages des singes et la loge de l'éléphant. Les enfants et les servantes qui le voyaient rire, comme il riait, silencieusement et longuement, devant les férocités et les cynismes des macaques et des ouistitis, ne se doutaient guère des pensées misanthropiques que ce spectacle soulevait dans le savant, qui comparait en lui-même la comédie humaine à la comédie simiesque, comme il comparait à notre folie habituelle la sagesse de cet animal si noble qui fut le roi du globe avant nous. Vers midi, M. Sixte rentrait, et de nouveau il travaillait jusqu'à 4 heures. De 4 à 6, il recevait, 3 fois la semaine, des visiteurs qui étaient presque toujours des étudiants, des maîtres occupés aux mêmes études que lui, des étrangers attirés par une renommée aujourd'hui européenne. 3 autres fois, il sortait et faisait les quelques visites indispensables. À 6 heures, il dînait, sortait encore, allant cette fois le long du jardin fermé jusqu'à la gare d'Orléans. À 8 heures, il rentrait, réglait sa correspondance ou lisait. À 10 heures, toute lumière s'éteignait. Cette existence monastique avait son repos hebdomadaire du lundi, le philosophe ayant observé que le dimanche déverse sur la campagne un flot encombrant de promeneurs. Ces jours-là, il partait de grand matin, montait dans un train de banlieue et ne rentrait que le soir. Il ne s'était pas une fois, durant ses 15 ans, départi de cette régularité absolue. Pas une fois il n'avait accepté une invitation à manger dehors, ni pris place dans une salle de spectacle. Il ne lisait jamais un journal, s'en rapportant pour le service de ses publications à son éditeur et ne remerciant jamais d'un article. Son indifférence politique était si complète qu'il n'avait jamais retiré sa carte d'électeur. Il convient d'ajouter, pour fixer les traits principaux de cette figure singulière, qu'il avait rompu tout rapport avec sa famille et que cette rupture était fondée, comme les moindres actes de cette vie, sur une théorie. Il avait écrit dans la préface de son second livre, Anatomie de la volonté, cette phrase significative : les attaches sociales doivent être réduites à leur minimum pour celui qui veut connaître et dire la vérité dans le domaine des sciences psychologiques. Par un motif semblable, cet homme si doux, qui n'avait pas fait 3 observations à sa servante depuis 15 ans, s'interdisait systématiquement toute charité. Il pensait sur ce point comme Spinoza qui a écrit dans le livre 4e de l'Éthique : la pitié, chez un sage qui vit d'après la raison, est mauvaise et inutile. Ce saint laïc, comme on eût pu l'appeler aussi justement que le vénérable Émile Littré, haïssait le christianisme comme une maladie de l'humanité, et il en donnait ses 2 raisons, d'abord que l'hypothèse d'un Père céleste et d'un bonheur infini avait développé à l'excès dans l'âme le dégoût du réel et diminué la puissance d'acceptation des lois de la nature, ensuite, qu'en établissant l'ordre social sur l'amour, c'est-à-dire sur la sensibilité, cette religion avait ouvert la voie à tous les caprices des doctrines les plus personnelles. Il ne se doutait point d'ailleurs que sa fidèle domestique lui cousait des médailles bénites dans tous ses gilets, et son inadvertance à l'endroit de l'univers extérieur était si complète qu'il faisait maigre tous les vendredis et autres jours prescrits par l'Église, sans apercevoir cet effort caché de la vieille fille pour assurer le salut d'un maître dont elle disait quelquefois, reproduisant sans le savoir un mot célèbre, « Le bon Dieu ne serait pas le bon Dieu s'il avait le cœur de le damner. » Ces années d'un labeur continu dans cette espèce d'ermitage de la rue Guy-de-la-Brosse avaient eu pour résultat, outre cette anatomie de la volonté, une théorie des passions, en 3 volumes, dont la publication aurait été plus scandaleuse encore que celle de la psychologie de Dieu, si l'extrême liberté de la presse et du livre depuis tantôt 10 ans n'avait habitué les lecteurs à des audaces de description que la tranquille férocité technique d'un savant ne saurait égaler. Dans ces 2 livres se trouvait précisée la doctrine de M. Sixte, qu'il est nécessaire de résumer ici pour l'intelligence du drame auquel cette courte biographie sert de prologue. Avec l'école critique issue de Kant, l'auteur de ces 3 traités admet que l'esprit est impuissant à connaître des causes et des substances et qu'il doit seulement coordonner des phénomènes. Avec les psychologues anglais, il admet qu'un groupe de ces phénomènes, ceux qui sont étiquetés sous le nom d'âme, peut être l'objet d'une connaissance scientifique à la condition d'être étudié d'après une méthode scientifique. Jusqu'ici, comme on le voit, il n'y a rien dans ces théories qui les distingue de celles que messieurs Taine, Ribot et leurs disciples ont développées dans leurs principaux travaux. les deux caractères originaux des recherches de M. Sixte sont ailleurs. Le premier réside dans une analyse négative de ce que Herbert Spencer appelle l'inconnaissable. On sait que le grand penseur anglais admet que toute réalité repose sur un arrière-fond qu'il est impossible de pénétrer. Par suite, il faut, pour employer la formule de Fichte, comprendre cet arrière-fond comme incompréhensible. Mais comme l'atteste fortement le début des premiers principes, pour M. Spencer, cet inconnaissable est réel. Il vit puisque nous vivons de lui. De là à concevoir que cet arrière-fond de toute réalité enveloppe une pensée d'où sort notre pensée, un cœur d'où sort notre cœur, il n'y a qu'un pas. Il est même légitime d'entrevoir dès aujourd'hui une réconciliation probable de la science et de la religion sur ce terrain de l'inconnaissable. Pour M. Sixte, c'est là une dernière forme de l'illusion métaphysique et qu'il s'est acharné à détruire avec une énergie d'argumentation que l'on n'avait pas admirée à ce degré depuis Kant. Son second titre d'honneur, comme psychologue, consiste dans un exposé extrêmement nouveau et ingénieux des origines animales de la sensibilité humaine. Grâce à une lecture immense et à une connaissance minutieuse des sciences naturelles, il a pu tenter pour la genèse des formes de la pensée le travail que Darwin a essayé pour la genèse des formes de la vie. Appliquant la loi de l'évolution à tous les faits qui constituent le cœur humain, il a prétendu montrer que nos plus raffinées sensations, nos délicatesses morales les plus subtiles, comme nos plus honteuses déchéances, sont l'aboutissement dernier, la métamorphose suprême d'instincts très simples, transformation eux-mêmes des propriétés de la cellule primitive. En sorte que l'univers moral reproduit exactement l'univers physique et que le premier n'est que la conscience douloureuse ou extatique du second. Cette conclusion, présentée à titre d'hypothèse à cause de son caractère métaphysique, sert de terme d'arrivée à une merveilleuse série d'analyses, parmi lesquelles il convient de citer 200 pages sur l'amour, d'une hardiesse presque plaisante, sous la plume d'un homme très chaste, peut-être vierge. Mais le même Spinoza n'a-t-il pas donné une théorie de la jalousie qu'aucun romancier moderne n'a égalée en brutalité? Et Schopenhauer ne rivalise-t-il pas d'esprit avec Chamfort dans ses boutades contre les femmes? Il est presque inutile d'ajouter que le déterminisme le plus complet circule d'une extrémité à l'autre de ses livres. On doit à M. Sixte quelques phrases qui traduisent avec une extrême énergie cette conviction que tout est nécessité dans l'âme. Même l'illusion que nous sommes libres. Tout acte, a-t-il écrit, n'est qu'une addition. Dire qu'il est libre, c'est dire qu'il y a dans un total plus qu'il n'y a dans les éléments additionnés. Cela est aussi absurde en psychologie qu'en arithmétique. Et ailleurs, si nous connaissions vraiment la position relative de tous les phénomènes qui constituent l'univers actuel, nous pourrions dès à présent calculer avec une certitude égale à celle des astronomes le jour, l'heure, la minute où l'Angleterre évacuera les Indes, par exemple, où l'Europe aura brûlé son dernier morceau de houille, où tel criminel, encore à naître, assassinera son père, où tel poème, encore à concevoir, sera composé. L'avenir tient dans le présent comme toutes les propriétés du triangle tiennent dans sa définition. Le fatalisme mahométan ne s'est pas exprimé avec une précision plus absolue. Des spéculations de l'ordre de celles que je viens d'indiquer ne semblent guère comporter que la plus affreuse aridité d'imagination. Aussi le mot que M. Sixte disait souvent de lui-même « je prends la vie par son côté poétique » paraissait-il à ceux qui l'entendaient le plus absurde des paradoxes. Et cependant rien de plus exact eu égard à la nature d'esprit spéciale des philosophes. En effet, ce qui distingue essentiellement un vrai philosophe né des autres hommes, c'est que les idées, au lieu d'être pour lui des formules plus ou moins nettes, sont vivantes et réelles comme des êtres. La sensibilité chez lui se modèle sur la pensée, au lieu que chez nous tous il s'établit un divorce, plus ou moins complet, entre le cœur et le cerveau. Un prédicateur chrétien a marqué admirablement la nature de ce divorce quand il a prononcé cette phrase étrange et profonde « Nous savons bien que nous mourrons, mais nous ne le croyons pas ». Le philosophe, lui, quand il l'est par passion, par constitution, ne conçoit pas cette dualité, cette vie dispersée entre des sensations et des réflexions contradictoires.
Aussi n'était-ce pas pour M. Sixte de simples objets de spéculation que cette universelle nécessité de toute chose, que cette métamorphose indéfinie et constante des phénomènes les uns dans les autres, que ce colossal travail de la nature sans cesse en train de se faire et de se défaire, sans point de départ, sans point d'arrivée, par le seul jeu de la cellule primitive, que ce travail parallèle de l'âme humaine reproduisant sous forme de pensée, d'émotion et de volonté le mouvement de la vie physiologique. Il se plongeait dans la contemplation de ces idées avec une espèce de vertige. Il les sentait avec tout son être, en sorte que ce bonhomme assis à sa table, avec sa vieille bonne qui cuisinait à côté, dans un bureau tout garni de rayonnages encombrés de livres, de pauvres mines, les pieds dans sa chancelière, le torse pris dans un paletot râpé, participait en imagination au labeur de tout l'univers. Il vivait la vie de toutes les créatures. Il revêtait toutes les formes, sommeillant avec le minéral, végétant avec la plante, s'animant avec les bêtes rudimentaires, se compliquant avec les organismes supérieurs, homme enfin, et s'épanouissant dans les amplitudes d'un esprit capable de refléter le vaste monde. Ce sont ces délices des idées générales, analogues à celles de l'opium, qui rendent ces songeurs indifférents aux menus accidents du monde extérieur, et aussi, il faut bien le dire, presque absolument étrangers, aux affections ordinaires de la vie. Nous ne nous attachons qu'à ce que nous sentons bien réel. Or, pour ces têtes singulières, c'est l'abstraction qui est la réalité, et la réalité quotidienne n'est qu'une ombre, qu'une épreuve grossière et dégradée des lois invisibles. Peut-être M. Sixte avait-il aimé sa mère. À coup sûr, là s'était bornée son existence sentimentale. S'il était doux et indulgent pour tous les hommes, c'était par le même instinct qui lui faisait, lorsqu'il déplaçait une chaise dans son bureau, prendre ce meuble sans violence. Mais il n'avait jamais éprouvé le besoin d'avoir auprès de lui une chaude et ardente tendresse, une famille, un dévouement, un amour, pas même une amitié. Les quelques savants avec lesquels il était lié lui représentaient des conversations professionnelles, celui-ci sur la chimie, cet autre sur les hautes mathématiques, un troisième sur les maladies du système nerveux. Que ces gens-là fussent mariés, occupés d'élever leurs enfants, soucieux de se pousser dans une carrière, ils n'en tenaient aucun compte dans ses rapports avec eux. Et si bizarre que doive paraître une telle conclusion après une telle esquisse, il était heureux. Un pareil homme, un pareil intérieur et une pareille vie étant donnés, que l'on imagine l'effet produit dans ce cabinet de travail de la rue Guy de la Brosse par ces deux faits survenus coup sur coup dans un même après-midi. D'abord, une cédule de citation adressée à M. Adrien Sixte, pour qu'il eût à comparaître au cabinet de M. Valette, juge d'instruction, afin d'être interrogé, suivant la formule, sur les faits et circonstances dont il lui serait donné connaissance. En second lieu, une carte portant le nom de Mme Veuve Gréloux et demandant à M. Sixte de la recevoir le lendemain vers 4 heures, pour l'entretenir du crime dont était accusé à faux son malheureux enfant. J'ai dit que le philosophe ne lisait jamais aucun journal. S'il en eût seulement ouvert un au hasard depuis 15 jours, il eût trouvé des allusions à cette histoire du jeune Gréloux que de récents procès ont fait oublier. Mais faute de ce renseignement, la cédule de citation et le billet de la mère ne lui offrirent aucune espèce de sens précis. Il lui fut impossible, cependant, de ne pas se rendre compte par le rapport entre cette citation et le mot de la mère, que les deux faits étaient probablement connexes, et il pensa aussitôt qu'il s'agissait d'un jeune homme, d'un certain Robert Gréloux, qu'il avait connu l'année précédente, dans des circonstances d'ailleurs toutes simples. Mais précisément, ces circonstances contrastaient tellement avec toute idée d'un procès criminel que ce souvenir ne pouvait en aucune manière guider les hypothèses du savant qui resta longtemps à regarder cette cédule tour à tour et cette carte, en proie à l'inquiétude presque douloureuse que tout événement d'un ordre très inattendu et très obscur inflige aux hommes d'habitude. Robert Gréloux. M. Sixte avait lu ce nom pour la première fois, il y avait 2 ans, au bas d'un billet qui accompagnait un manuscrit. Ce manuscrit portait comme titre « Contribution à l'étude de la multiplicité du moi », et le billet énonçait modestement le désir que le célèbre écrivain voulût bien jeter un coup d'œil sur ce premier essai d'un tout jeune homme. L'auteur avait ajouté à sa signature « élève de philosophie au lycée de Clermont-Ferrand ». Ce travail d'environ 60 pages révélait une intelligence si prématurément subtile, une connaissance si exacte des théories les plus récentes de la psychologie contemporaine, enfin une telle ingéniosité d'analyse que M. Sixte avait cru devoir répondre par une longue lettre. Un mot de remerciement était venu aussitôt, dans lequel le jeune homme annonçait qu'obligé d'aller à Paris pour ses examens oraux de l'école normale, il aurait l'honneur de se présenter chez le maître. Ce dernier avait donc vu entrer une après-midi un garçon de 19 ans avec de beaux yeux noirs vifs et mobiles qui éclairaient un visage un peu trop pâle. C'était le seul détail de physionomie qui fût demeuré dans la mémoire du philosophe. Semblable sur ce point à tous les spéculatifs, il ne recevait du monde visible qu'une impression flottante et il n'en gardait qu'une réminiscence vague comme cette impression. Mais sa mémoire des idées était surprenante. Il se rappelait jusqu'au moindre détail son entretien avec ce Robert Gresloup. Parmi les jeunes gens que sa renommée attirait chez lui, aucun ne l'avait étonné davantage par la précocité vraiment extraordinaire de l'érudition et du raisonnement. Sans doute il y avait dans l'esprit de cet adolescent bien de l'à peu près, l'effervescence d'une pensée qui s'est assimilée, trop vite, trop de connaissances diverses. Mais quelle merveilleuse facilité de déduction, quelle éloquence naturelle et aussi quelle visible sincérité d'enthousiasme. Le savant le revoyait, au cours de cette conversation, gesticulant un peu et lui disant « Non, monsieur, vous ne savez pas ce que vous êtes pour nous, ni ce que nous éprouvons à lire vos livres. Vous êtes celui qui accepte toute la vérité, celui en qui on peut croire. Tenez, dans votre théorie des passions, l'analyse de l'amour, mais c'est notre barrière à tous. Au lycée, on défend le livre. Je l'avais chez moi, et deux de mes camarades venaient copier ses chapitres à la maison les jours de sortie. » Et comme il y a une vanité d'auteur cachée dans l'âme de tout homme qui a fait imprimer de sa prose, fut-il aussi absolument sincère que M. Adrien Sixte, ce culte d'un groupe d'écoliers, naïvement exprimé par l'un d'eux, l'avait flatté particulièrement. Robert Gresloup avait sollicité l'honneur d'une seconde visite, et là, tout en avouant au philosophe un échec à l'école normale, il s'était un peu ouvert sur ses projets. M. Sixte s'était laissé aller, contre toutes ses habitudes, à l'interroger sur des détails tout intimes. Il avait appris ainsi que le jeune homme était le fils unique d'un ingénieur mort sans fortune, et que la mère l'avait élevé à force de sacrifices. « Mais je n'en accepterai plus, » avait dit Robert. « Mon intention est de passer ma licence dès cette année, de demander une chaire de philosophie aussitôt dans un collège, et de travailler à un grand ouvrage sur les variations de la personnalité, dont l'essai que je vous ai soumis est l'embryon. » Les yeux du jeune psychologue s'étaient faits plus brillants pour formuler ce programme de vie. Ces deux visites dataient du mois d'août 1884, on était en février 1887, et depuis lors, M. Sixte avait reçu 5 ou 6 lettres de son jeune disciple. La dernière lui annonçait l'entrée de Robert Gresloup comme précepteur dans une famille noble qui passait l'hiver dans le Midi et les mois du printemps et de l'été dans un château près d'un des jolis lacs des montagnes d'Auvergne, celui d'Eida. Un simple détail donnera la mesure de la préoccupation ou la coïncidence entre la lettre émanée du cabinet du juge et la carte de Madame Gresloup jetée à M. Sixte. Quoi qu'il lût sur sa table les épreuves à revoir d'un long article pour la revue philosophique, il se mit à rechercher cette correspondance avec le jeune homme le soir même. Il n'eut pas de peine à la trouver dans le cartonnier où il rangeait méticuleusement ses moindres papiers. Elle se trouvait classée, avec d'autres du même genre, sous la rubrique « Documents contemporains sur la formation des esprits ». Elle formait environ 30 pages, que le savant lut avec un soin particulier, sans y rien trouver que des réflexions d'un ordre tout intellectuel, des questions sur des lectures à suivre et l'énoncé de quelques projets de mémoire. Quel rapport pouvait-il bien y avoir entre de pareilles préoccupations et ce procès criminel dont parlait la mère? Ce procès était-il la cause de cette citation en témoignage, inexplicable autrement? Il fallait cependant que ce garçon, vu 2 fois à peine, eût beaucoup frappé le philosophe, car la pensée que le mystère qui se cachait derrière cet appel au palais de justice était le même que celui qui motivait cette visite subite d'une mère au désespoir le tint éveillé une partie de la nuit. Pour la première fois depuis des années, il rudoya Mademoiselle Trappenard à cause d'une petite négligence de service, et quand il passa devant la loge à 1 heure de l'après-midi, son visage d'ordinaire très calme exprimait un si visible souci que le père Carbonnet, déjà mis en éveil par la lettre de convocation qui était arrivée ouverte, suivant une coutume assez barbare, et qu'il avait lue, comme de juste, fit cette confidence à sa femme. Il en avait déjà parlé dans tout le quartier. « Je ne suis pas curieux des affaires des autres, mais je donnerais bien 20 ans de la vie de la propriétaire pour savoir ce que la justice peut vouloir à ce pauvre monsieur Sixte, qu'il est là et qui dévale à cette heure-ci comme un aboyfou. »
Tiens, monsieur Sixte a changé son heure de promenade, disait à sa mère la jeune fille assise au comptoir dans la boutique de la boulangerie. Il paraît qu'il va y avoir un procès pour un héritage.
Pige-moi donc le père Sixte, se défile-t-il, ce zèbre-là?
Il paraît que la justice le chicane, racontait à son camarade un des deux élèves en pharmacie. C'est vieux, ça n'a l'air de rien, et puis on découvre des histoires de petites filles dans les coins. Au fond, c'est tout des canailles.
Il est encore plus ours que d'habitude. Il ne nous saluera seulement pas. C'était la femme du professeur au Collège de France, établi dans la même maison que le célèbre philosophe et qui se croisait avec lui.
Tant mieux. D'ailleurs, on prétend qu'on va poursuivre ses livres. Ce n'est pas dommage.
Et voilà comment les plus modestes des hommes, et qui se croient les plus ignorés, ne peuvent faire un pas sans qu'ils soient commentés par d'innombrables bouches, du moment qu'ils habitent ce que l'on est convenu d'appeler à Paris un quartier paisible. Ajoutons que M. Sixte se fût soucié de cette curiosité, s'il l'eût soupçonné, comme d'un volume de philosophie officielle, ce qui était pour lui le dernier terme du mépris.